Les saints et les anges en cœur glorieux chantent vos louanges
pour être précieux.
Ave, ave, ave. Chers pèlerins, nous voici réunis pour méditer le thème de cet an de grâce 2022, Allez dire aux prêtres. Voilà quel est le thème de cette année qui va s'ouvrir sur la suite de cette phrase prononcée par la belle dame le 2 mars 1858, Allez dire aux prêtres que l'on vienne ici en procession et que l'on y bâtisse une chapelle. Allez dire aux prêtres. Lorsque les premiers pèlerins et curieux descendent à la grotte, minuit vient de sonner. Voici les premières heures de ce mardi 2 mars 1858. Jusqu'à 7 heures, où les premières lueurs de ce jour accompagnent l'arrivée de Bernadette, 1650 personnes ont pris place dans la grotte, sur la pointe de l'île du Chalet, jusqu'au loin où la voyante est invisible. Dans la nuit noire, la prière prépare l'arrivée de Bernadette et avec elle, celle de la jeune demoiselle au rosaire. Malgré la foule qui l'entoure, Bernadette s'installe à la place qu'on lui réserve et près de laquelle on veut se tenir. Semblant ne voir personne, elle s'agenouille face à la niche rocheuse dans laquelle Aquero, en patois celle-là, lui apparaît. Le cierge béni des enfants de Marie dans la main gauche, le chapelet dans la main droite, Bernadette s'apprête à sa récitation. Avec le crucifix de son chapelet de dessous, rapporté par sa sœur Toinette du sanctuaire voisin de Bétharram, elle trace le signe de la croix. Bernadette est en prière et la prière gagne cette foule aussi silencieuse que paisible. C'est toujours ce qui étonne ceux qui viennent assister aux apparitions. Il y a le nombre, mais il y a surtout la paix de la prière. Si les témoignages de ce 2 mars ne nous rapportent rien de particulier pendant l'extase de cette 13e apparition, c'est tout simplement que son extraordinaire ne sort pas de l'ordinaire auquel Bernadette a habitué ceux qui, à la grotte, sont venus pour la voir. On ne va pas à la grotte voir la dame, puisque seule Bernadette voit la dame. On va à la grotte voir la voyante, voir Bernadette. Habituellement, la jeune demoiselle lui apparaît pendant la récitation de son chapelet aux environs de la seconde dizaine. Là, son visage s'illumine. Son incandescente pâleur contraste alors avec le regard que ses grands yeux noirs portent vers l'apparition. L'éternité qu'elle contemple et manifeste, ses yeux ne clignent plus. Et l'avancée de son chapelet, moins régulière, fait place à la contemplation. Voilà le secret du chapelet. Le chapelet, ce n'est pas répéter. Le chapelet, c'est contempler. Et c'est ce que fait Bernadette pendant les apparitions. Et c'est ce qu'à notre niveau, nous sommes invités à faire, contempler à travers les yeux de la bienheureuse Vierge Marie les mystères de la vie de son Fils. Le chapelet achevé, Bernadette se lève. Sous le regard de celle qui se tient sur l'églantier jaillissant de la niche rocheuse, la voilà qui cherche à accomplir les gestes de pénitence qu'elle lui a enseignés les jours précédents. Embrasser la terre, manger l'herbe amère, boire à la source et s'y laver. Bernadette peine à les réaliser tant la foule est nombreuse ce matin-là. Bernadette ne se rend pas compte des gesticulations que cette foule contenue dans la grotte doit opérer pour la laisser marcher à genoux, escalader on ne sait pas comment avec ses genoux des rochers et accomplir ses gestes. Elle ne voit personne d'autre, si on peut dire, que la belle dame. Bernadette donc peine à les réaliser. Et tous ces gestes n'étonnent personne en cette 13e apparition, c'est pourquoi il n'y a pas de témoignage particulier, ils sont devenus habituels, ils sont même devenus presque rituels au cours des dernières apparitions. Les langues se délient par contre au sujet de la station que fit Bernadette sous la cavité intérieure de la grotte. Alors, qu'est-ce que cette cavité intérieure ? Lorsque vous regardez la grotte de l'extérieur, vous voyez la niche dans laquelle se trouve la statue. C'est là que Bernadette voit la dame lui apparaître. Faisons attention, il n'y a pas une telle distance de hauteur. La grotte, le sol a été beaucoup abaissé, nettoyé, ceux qui ont la chance de déjeuner à l'hôtel à côté Sainte-Agnès, eh bien, ont une représentation de la grotte de Massabielle telle qu'elle était à l'époque des apparitions, et on voit bien combien le sol monte dans la grotte. Mais lorsque la dame doit parler à Bernadette, elle ne reste pas altière et belle en haut de la niche rocheuse. Elle descend dans la grotte par la cavité intérieure. Vous voyez la statue de l'extérieur, mais il y a à l'intérieur un passage qui permettait à la dame de descendre. Lorsqu'avec dévotion vous irez toucher le rocher, l'embrasser, eh bien vous lèverez la tête et vous verrez l'ouverture intérieure de laquelle descendait la belle dame pour alors avoir un face-à-face avec Bernadette. Et c'est dans ce face-à-face, dans ce lieu le plus intime, que vont avoir lieu les discussions, les rires, les confidences. Au retour de la source, Bernadette a donc été faire ses gestes de pénitence, la jeune demoiselle est donc venue à la rencontre de Bernadette, parvenue par l'ouverture intérieure de la niche rocheuse. Les voici donc face à face, dans la grotte, lieu le plus intime de leur confidence. Bernadette rit, c'est ça que l'on voit. Bernadette qui rit, son visage est tout joyeux, puis voilà que son visage se ferme et se fait plus sérieux. C'est ça que l'on ne peut que rapporter de ce qui se passe à la grotte. On n'entend pas, on ne voit pas, on voit Bernadette. Autour d'elle, on comprend, c'est la 13e apparition, hein, on comprend qu'elle est en conversation avec sa jeune demoiselle, on scrute les lèvres de Bernadette, on y est comme suspendu, mais aucun son ne vient en trahir l'intimité. D'où la question que s'empresse de lui poser les dames de la paroisse, faisant cercle autour de Bernadette. On voit que l'apparition est terminée. Pourquoi ? Le visage de Bernadette n'est plus incandescent. Il s'est comme éteint. C'est fini. Et on sait qu'il faut aller vite, parce que quand l'apparition est terminée, Bernadette se lève et retourne à Lourdes. En silence, c'est l'action de grâce. Quelle est donc cette question ? Qu'est-ce qu'elle t'a dit ? Aquero est reparti. Dans la nuée lumineuse dont Bernadette contemple, nostalgique en son cœur, les dernières lueurs. Mais déjà, ses yeux saisissent le cercle des pieuses dames qui l'assaillent. Et d'instinct, Bernadette a beaucoup d'instinct, elle comprend qu'elle ne pourra ouvrir une brèche et remonter la fameuse ravine qu'en livrant une bribe de confidence. Anat dise a pretres. Combenque aqui en processio, allez dire au prêtre que l'on vienne ici en procession. Vous venez d'entendre, cher pèlerin, jaillir comme à sa source l'invitation que lance Notre-Dame de Lourdes en date du 2 mars 1858. La Vierge Immaculée missionne Bernadette, qui dès son retour de la grotte ce matin-là, transmet cet appel à l'abbé Pomian, se trouvant à l'hospice, puis au curé de Lourdes, qu'elle rencontre au presbytère. Allez dire au prêtre que l'on vienne ici en procession. Plus tard dans la journée, réalisant qu'elle a oublié la seconde partie de sa commission, Bernadette a une très mauvaise mémoire. Elle n'est à l'école qu'à partir de janvier 1858. Elle n'a jamais vraiment exercé sa mémoire à retenir une quelconque poésie. Elle connaît par cœur le Notre Père, le Je vous salue Marie, et comme elle dira, le credo, c'est plus long. Donc là, l'émotion de cette apparition, le caractère mystique de la chose qui fait qu'elle ne comprend pas avec son intelligence, mais ça s'adresse directement à son âme et à son cœur, fait qu'elle se rend compte au bout d'un moment qu'elle a oublié la moitié de la demande. Il va falloir donc retourner voir monsieur le curé. Donc Bernadette prendra de nouveau le chemin du presbytère pour transmettre à la nuit tombée, cette fois, la seconde demande. Le curé payera mal, entouré de ses vicaires, l'entend alors, allez dire au prêtre que l'on vienne ici en procession et que l'on y bâtisse une chapelle. Vous voyez que la Vierge, pour s'adresser à vous, chers pèlerins, passe par les prêtres. Pour atteindre le troupeau, elle s'adresse au berger en demandant au serviteur de son fils de faire venir ici les pèlerins. Cela veut dire aussi, dans cette phrase, que la Vierge Immaculée a pour le lieu de Massabielle un dessein précis pour lequel elle compte encore aujourd'hui sur les prêtres. Pourquoi faut-il venir à la grotte ? Qu'est-ce qu'il faut vivre comme pèlerinage ? En tous les cas, la Vierge sait qu'elle a besoin des prêtres. Anat dice ad prêtres combenque aqui en processio. Procession, me direz-vous. Traduit par procession, cette demande est déjà le résultat d'une interprétation locale. Ainsi fonctionnent les subtilités du patois. Si on a compris la demande comme celle d'une procession, procession liturgique, c'est non seulement parce que la dame s'adresse à l'autorité sacerdotale, mais également parce que le « acquis » désigne Massabielle distant de 2 km de l'église paroissiale. C'est beaucoup trop proche. Donc on a compris, dans le patois de Lourdes, « processio », c'est une procession. Cependant, « processio » peut également se traduire par « pèlerinage ». Si procession a prévalu, c'est en raison de la proximité des lieux, mais le patois porte l'ambiguïté du proche et du lointain, de la procession et du pèlerinage. Par ailleurs, et pour corser le tout, le français de l'époque peut dire procession lorsqu'il s'agit d'un pèlerinage. Alors aujourd'hui, on part en pèlerinage à Lourdes, on ne dit pas qu'on part en procession à Lourdes depuis Bouillé-Lauré, Blanzé et autres saints lieux de résistance. Mais vous voyez que à l'époque, même en français, procession était synonyme de pèlerinage. En tous les cas, il serait réducteur de comprendre seulement dans la phrase de la dame le mot procession. La Sainte Vierge demande également que l'on vienne ici en pèlerinage et c'est dans ce but qu'elle lance au prêtre cet appel. Allez dire au prêtre que l'on vienne ici en pèlerinage et qu'on y bâtisse, pour ce fameux pèlerinage, une chapelle. Il y aura la grotte, bien sûr, acquis ici, mais il y a aussi la demande de la chapelle. Ce qu'ont en commun procession et pèlerinage, c'est la dimension communautaire, de telle sorte que l'on peut conclure que la Sainte Vierge ne demande pas que l'on vienne à Lourdes seul ou même de sa propre initiative. Bien sûr, elle ne l'interdit pas, mais elle convoque en ce lieu choisi l'Église. Elle invite par le ministère sacerdotal les fidèles à venir ici vivre un pèlerinage, mieux encore, le pèlerinage de Lourdes. De même en est-il pour la demande de la chapelle. il ne s'agit pas seulement de sa construction. Il s'agit tout autant de la vie de cette chapelle qui est le lieu où les fidèles se réunissent, le lieu où l'évangile est annoncé et prêché, celui encore où les sacrements sont reçus, de telle sorte que la chapelle suppose les chapelains. Le pèlerinage à la grotte de Lourdes, comme sa chapelle, suppose que les prêtres conduisent ici les fidèles dont ils ont charge d'âme. Donc c'est très important de bien comprendre qu'à l'école du message de Lourdes, eh bien, la Vierge nous invite, nous fidèles, à nous rendre à Lourdes sur l'initiative de ceux qui ont charge de nos âmes, sur l'initiative des prêtres. Du coup, plus qu'une procession liturgique, vous le sentez maintenant, c'est un lieu de pèlerinage que la Vierge Immaculée institue et formalise ce 2 mars 1858, alors même qu'elle n'a pas encore prononcé son nom. Ça va être les innombrables allers-retours que Bernadette va faire. Bernadette n'avait jamais rencontré son curé, l'abbé Peyramale, avant le 2 mars 1858. Elle l'a vu à l'église, elle l'a entendu prêcher avec sa voix qui était toujours enrouée parce que l'abbé Peyramale était toujours en colère sur deux sujets, un plus grave que l'autre. Le péché, ça le mettait en colère. Mais tout autant la porte de l'église qui ne fait que grincer, et ça, en chair, ça l'agaçait presque tout autant. Donc l'abbé Peyramale était souvent enroué, et à cause de la porte, et à cause de ce que le curé d'Ars aurait dit pour les prêtres, il faut être un loup en chair, mais un agneau au confessionnal. Un loup en chair pour dénoncer le péché, un agneau au confessionnal, parce que nous accueillons le pécheur, et que jamais le pécheur n'est réduit à son péché. Allez dire aux prêtres. Tel est donc le thème d'année du sanctuaire de Lourdes en cet an de grâce 2022, 164 ans après les apparitions. Je vous l'ai dit, ce thème est le premier d'un triptyque s'ouvrant en 2023 sur la demande de procession, se refermant en 2024 sur la demande que soit bâtie en ce lieu une chapelle. En proposant à notre méditation l'adresse introduisant les demandes du 2 mars, le sanctuaire de Lourdes nous invite à en mesurer vraiment la portée sacerdotale du message de Lourdes. Allez dire aux prêtres. Cependant, il faut se garder immédiatement d'un contresens. Bernadette n'est pas appelée par la Vierge Immaculée à aller tout dire aux prêtres. Tenons-en pour preuve les secrets, y compris celui reçu lors de l'apparition du 2 mars, que Bernadette n'évoquera même pas en allant à la rencontre des prêtres ce jour-là. Alors je suppose qu'il y aura une question à la fin de la conférence que je devance. Quel était donc ce secret ? Ben, c'est un secret qui est resté un secret. Entre la Sainte Vierge et Bernadette, il y a quelques bribes de confidence, mais on ne sait pas sur quel secret en question. Il y a eu un secret où la Vierge a appris une prière à Bernadette. Bernadette a juste dit à sa maîtresse des novices, qui avait l'art de rabrouer un peu Bernadette pour son humilité, « Oh ma mère, si vous connaissiez la prière, vous auriez dit ceci, oui, ça c'est bien pour Bernadette. » Donc c'est que ça ne devait pas être une prière très compliquée. Mais nous ne le savons pas. Qu'est-ce qu'elle a dit ce jour-là? On ne le sait pas davantage. Bernadette répondait, ça ne concerne que moi, parce qu'on lui demandait, est-ce que ça concerne le pape? Est-ce que ça concerne l'Église? Est-ce que ça concerne la France? Ça ne concerne que moi. Ça reste un secret. Mais vous voyez, aller dire au prêtre, il ne s'agit pas d'aller tout dire au prêtre pour Bernadette. Il s'agit d'aller parler de la procession, pèlerinage, et de l'Église. À cela, il faut prendre en considération que cet ordre, aller dire au prêtre, n'arrive que très tardivement. On est à la 13e apparition, il en restera 5. Et la Vierge sera encore moins bavarde qu'avant. Malgré tout, il n'est pas inintéressant de relire brièvement l'ensemble des rencontres de Bernadette avec les prêtres pendant les apparitions. Comme nous allons le vérifier, Bernadette n'est jamais à l'origine de ces rencontres. Elle est toujours envoyée dire aux prêtres. Et tout a commencé le samedi 13 février, deux jours après la première apparition. Bernadette se rend à l'église pour rencontrer un prêtre. Elle répond aux craintes légitimes de sa mère, Louise, qui l'envoie. Bernadette doit confier à un prêtre ce qu'elle a vu le 11 février. Telle est vraiment la conviction profonde de Louise. Ce que l'on appelle alors dans la tradition de Lourdes la confession du 13 février n'est justifié qu'en raison du lieu de l'entretien, le confessionnal. Bernadette ne s'est pas à proprement parler accusée de ses fautes, elle a simplement retracé à l'abbé Paumian, de permanence de confession les samedis après-midi, la rencontre surnaturelle dont elle a été bénéficiaire. Cette rencontre ne fut pas, attention, le commencement d'un accompagnement spirituel. Ni Bernadette, ni l'abbé Paumian n'ont émis le souhait de se rencontrer régulièrement pour faire le point sur d'éventuelles nouvelles apparitions. Leur relation, abbé Paumian-Bernadette, qu'on exagère souvent dans la tradition de Lourdes, n'est pas comparable à celle unissant, par exemple, Sainte Marguerite-Marie à la Coque et Saint-Claude de la Colombière, lors des apparitions du Sacré-Cœur à Paray-le-Monial. Et j'ouvre une parenthèse, le Sacré-Cœur, quand il annonce la venue du Père de la Colombière, dit ceci. Je vous envoie un de mes meilleurs amis. Chers confrères, voyez-vous comment le Seigneur parlait du Père de la Colombière. Je vous envoie un de mes meilleurs amis. Et là, il va vraiment y avoir une relation entre le directeur spirituel et Sainte Marguerite. Il n'y a rien de tout cela à Lourdes. Viennent ensuite, moins connues, mais beaucoup plus importantes, les rencontres avec l'abbé Penn. Alors l'abbé Penn, qui est-il ? C'est le jeune vicaire. C'est le jeune vicaire de la paroisse de Lourdes. Là encore, Bernadette n'est pas à l'origine de ces entretiens. Si elle ne s'y dérobe jamais, parce que c'est un prêtre qui lui demande de venir, donc Bernadette, il y a deux choses. Hein. Elle va être une vraie bigourdane à la tête dure, lorsqu'il va falloir répondre aux autorités impériales, aux juges, aux commissaires. Là, on ne l'en fera pas démordre. En revanche, aux prêtres, Bernadette est extrêmement soumise et beaucoup plus impressionnée. Donc, elle ne se dérobe jamais à la convocation de l'abbé Penn. Et ça lui coûte beaucoup. Parce que l'abbé Penn vit à la maison Cénacle. Alors, ça ne vous dit rien de plus. La maison Cénacle, elle est divisée en trois parties. En bas, vous avez le commissariat de police et la résidence du commissaire Jacomet. Premier étage, vous avez Jean-Baptiste et sa sœur Emmanuelite Estrade. Jean-Baptiste Estrade sera un des premiers historiens de Lourdes. C'est lui que l'abbé Peyramale envoie à la grotte pour être ses yeux et ses oreilles. C'est le collecteur d'impôts. Et, troisième personne qui vit là, l'abbé Penn, le vicaire, avec sa sœur Jacquette qui le sert. Heureux temps. Où l'une des sœurs s'occupait de... Non, je n'ai pas de sœur. S'occupait de leur prêtre. Donc Bernadette, quand elle est convoquée par l'abbé Penn, on doit toujours un petit peu la rassurer et l'assurer que le commissaire Jacomet n'y est pas. Parce qu'il faut quand même passer par l'escalier et monter. Alors, pourquoi est-ce que l'abbé Penn convoque Bernadette ? L'abbé Penn n'a pas le droit d'aller à la grotte, pourtant ça le démange. L'abbé Peyramale, qui est le curé doyen de Lourdes, est très catégorique à ce sujet. Le Saint-Étui, la soutane, ne doivent pas être vus à la grotte pour ne pas donner une quelconque approbation ou faire croire que c'est l'Église qui est derrière Bernadette dans une époque où le libéralisme et l'anticléricalisme sont déjà bien répandus, on peut faire croire que c'est le clergé qui est à l'origine d'une instrumentalisation, etc., etc. On est en concordat, mais un concordat avec un empereur un peu libéral, prudence. Mais l'abbé Penn, lui, il pense qu'il devrait y être, qu'il devrait au moins y avoir un prêtre pour voir et entendre. Que fait-il ? Il envoie sa sœur, Jacquette, assister à toutes les apparitions. Et Jacquette, à la grotte, c'est les oreilles et les yeux de l'abbé Penn qui convoquera Bernadette pour tirer un petit peu les vers du nez à Bernadette. Pourquoi tirer les vers du nez ? C'est pas que Bernadette met de la mauvaise volonté, c'est qu'elle a une mauvaise mémoire. Et surtout, ce qu'il ne faut jamais perdre de vue, c'est que les apparitions de Lourdes sont des extases. 35-40 minutes au bas mot. Les yeux ne clignent plus, elle est en contemplation. Et la Vierge, là, ne s'adresse pas à elle avec son intelligence, elle lui parle avec son cœur. Donc c'est un cœur à cœur, c'est très difficile à Bernadette de, de donner des mots sur ce qu'elle a vécu, et y compris de se rappeler les phrases exactes de la dame. Donc, on doit beaucoup à l'abbé Penn. Donc, vous voyez, la Bernadette, elle est convoquée, mais ce n'est pas elle encore qui va voir les prêtres pour dire « Moi, j'ai reçu telle grâce ». Au contraire, on la fait venir et on essaye vraiment de lui faire dire, de faire mettre des mots sur ce qu'elle a vu, sur ce qu'elle a entendu. Et heureusement qu'il y a eu l'abbé Penn pour un certain nombre de phrases des apparitions. La Vierge n'était pas bavarde, mais Bernadette non plus. Enfin, arrive le 2 mars, je vous l'ai dit, et avec lui, les rencontres régulières avec le curé Peyramal. Donc c'est la première fois qu'elle va rencontrer son curé, le 2 mars à la journée, puis le 2 mars au soir, et ensuite, l'abbé Peyramal et la Vierge ne font qu'envoyer Bernadette. Pourquoi ? L'abbé Peyramal a dit « La chapelle, je ne connais pas son nom ». Alors Bernadette, elle va demander à la dame son nom, qui sourit, et elle va juste dire au curé, elle a souri, mais elle ne fait que répéter, je veux la chapelle. Alors Bernadette repart, la dame, elle veut toujours la chapelle, oui, mais est-ce qu'elle a dit son nom ? Non. Donc on repart. C'est un dialogue de sourds entre le curé et la belle dame. Et donc nous voici retracés l'ensemble des rencontres de Bernadette avec les prêtres. C'est tout. Avant, elle n'en a pas rencontré plus, si ce n'est l'abbé Sauter, je crois son nom, qui lui a fait un peu de catéchisme à Bartrès, mais Bernadette n'a pas une connaissance des prêtres particulière. Donc vous voyez qu'elle est toujours envoyée dire aux prêtres, envoyée par sa mère, envoyée par quelques témoins, puis à partir du 2 mars, envoyée par la Vierge elle-même, allez dire aux prêtres. Nous touchons là une caractéristique du message de Lourdes, ce qui se reproduit toujours dans le message de Lourdes. En raison de sa nature prophétique, les brèves paroles prononcées par la dame s'enracinent toujours dans une pratique qui les précède. Ainsi en est-il du pèlerinage que la Vierge confie au ministère sacerdotal. L'ordre qu'elle prononce ce 2 mars s'enracine dans les gestes et attitudes qu'elle a suscités en Bernadette. Bernadette, c'est l'archétype de tout pèlerin. Allez dire aux prêtres maintenant. Mais à quel prêtre ? La dame est vague. Pour Bernadette, de retour à la grotte ce matin-là, la question ne se pose pas. Elle est envoyée à la rencontre du clergé de sa paroisse. L'abbé Peyramal et le curé doyen de Lourdes, les abbés Serres, on ne sait jamais rien de l'abbé Serres. L'abbé Penn sont vraiment les vicaires, et l'abbé Paumian, qui fut jadis le vicaire de l'abbé Peyramal, a été nommé aumônier de l'hospice des Dames de Nevers, dont Bernadette fréquente depuis le mois de janvier, je vous l'ai dit, la classe des indigents. En ce mardi 2 mars, Bernadette rencontre l'ensemble du clergé de Lourdes, à qui elle transmet les demandes de celle qui se révélera être la mère de l'Église, de telle sorte qu'au soir du 2 mars, quittant le presbytère au bras de Dominiquette Cazenave, c'est la sacristine, la femme en qui l'abbé Peyramal a vraiment confiance, donc c'est Dominiquette qui a amené Bernadette, Bernadette déclare, vraiment à la satisfaction du devoir accompli, « Je suis bien contente, j'ai fait ma commission. » Pour elle, sa mission est terminée. Elle a été dire au prêtre, la première demande le matin, elle s'est rappelée la seconde le soir quand elle est arrivée, il y avait non seulement l'abbé Penn, l'abbé Serres, l'abbé Paumian et l'abbé Peyramal. Le problème, c'est que Bernadette ne parle que patois, et que chaque vallée a plus ou moins son patois. L'abbé Peyramal comprend très bien le patois de Lourdes, mais se garde bien de dire un mot. Et les autres abbés qui sont d'autres vallées posent des questions en patois, mais ce n'est pas toujours les bons mots. Heureusement qu'il y a Dominiquette Cazenave qui fait des traductions, car la rencontre est assez épique. On lui demande par exemple, est-ce qu'elle sait ce que c'est les sorcières, sorcieros. Et Bernadette répond, il n'y a pas de pétrin là-dedans. Parce que les mots d'un patois d'une vallée sur l'autre, alors... Dominiquette Cazenave, elle essaye, et surtout ce qu'elle voit, c'est que l'abbé Peyramal comprend parfaitement la réponse de Bernadette, comprend parfaitement la maladresse des vicaires, mais aucun mot. C'est une Dominiquette qui dit, oh, monsieur le curé, quand même, un peu d'effort, vous voyez bien, le Peyramal dit rien. Donc vous voyez, pour Bernadette, vraiment, elle ne va pas s'accrocher à aller dire aux prêtres, les forcer, Non, elle a eu sa commission, elle a fait ce pourquoi la Vierge l'a demandé. C'est déconcertant de simplicité. Pourtant, la question ne tarde pas à se poser, allez dire au prêtre, mais à quel prêtre ? décider une procession. Bâtir une chapelle dépasse l'autorité du simple prêtre, fut-il curé doyen de Lourdes. Ça compte pas pour ceux qui doivent rebâtir les églises. Je le précise pour notre grand méritant de Bouillé-Loré. Pour comprendre pourquoi et comment la question se pose, eh bien suivons Bernadette sur le chemin du retour de la grotte ce 2 mars 1858. Après avoir quitté le cercle des pieuses dames qui l'assaillent, nous l'avons vu, Bernadette donc remonte la ravine à droite de la grotte et sur le chemin de la forêt prend la direction de l'hospice à la rencontre de l'abbé Pomian. Allez dire au prêtre. Sur ce chemin, Bernadette rencontre Pauline Cazot, une enfant de Marie, lui demandant si elle peut l'accompagner. Alors Bernadette accepte, à la condition, qui est toujours la même pour ceux qui veulent raccompagner Bernadette, qu'elle se taise, chemin faisant. Cette condition vraiment est toujours la même pour ceux qui veulent raccompagner Bernadette en ville et qui espèrent avoir quelques bribes du message. Mais au retour des apparitions, c'est vraiment l'occasion pour Bernadette d'une action de grâce silencieuse, c'est-à-dire ce qu'elle a vu a tellement ouvert, non pas seulement ses yeux, mais son âme, que elle revient comme sur terre, si vous voulez. Et donc, vous voyez, là, immédiatement, ces bonnes femmes qui l'ont assaillie de la question fait que Bernadette en a oublié la seconde partie. Il ne faut pas oublier les extases de ces apparitions. Donc Bernadette, elle demande surtout aussi le silence, parce que là, la dame, en plus, lui a confié une phrase, allez dire au prêtre. Et donc, Bernadette, elle va devoir la répéter pour essayer de s'en souvenir jusqu'à ce qu'elle arrive chez l'abbé Pomian. Alors là, rencontre avec l'abbé Pomian. Donc on est à l'hospice, c'est aujourd'hui l'hôpital de Lourdes. Bernadette lui transmet le message de la jeune demoiselle concernant seulement la procession. Les 2 kilomètres du chemin ont eu raison de la chapelle. Bernadette l'a oublié. Dans son histoire authentique, René Laurentin retrace la rencontre avec l'abbé Pomian en ces termes. Et René Laurentin, c'est pas de la science-fiction, hein. C'est-à-dire qu'il a recoupé les témoignages de l'abbé Pomian, des tantes. Il écoute avec attention, comme à son habitude, mais sa défiance n'a fait qu'augmenter depuis le début des événements. D'abord, il a pu interroger Bernadette au catéchisme la semaine dernière. Il a été stupéfait de sa piété, non, de son ignorance. Stupéfait. Que peut-il sortir de bon d'une fille de 14 ans qui ignore jusqu'au mystère de la Trinité ? Ce qu'on raconte des scènes de ces derniers jours, l'herbe, manger de l'herbe à quatre pattes, la boue, enfin, et surtout pour les prêtres, on comprendra que c'est surtout l'argument majeur, surtout la position négative de l'abbé Peyramal, joue dans le même sens. Parce qu'autant l'abbé Penn, c'est le jeune vicaire un petit peu jeune et indépendant, autant l'abbé Pomian, ce fut le premier vicaire. Donc quand l'abbé Peyramal n'est pas d'accord, l'abbé Pomian, lui, est du côté du curé. Donc il se montre réticent pour toutes ces raisons. Et de toute façon, écrit Laurentin, cette demande qu'a reçue Bernadette le dépasse. C'est la seule chose qu'il lui dit, ce serait du ressort de monsieur le curé. Bref, conclut René Laurentin, l'abbé Pomian ne semble pas se soucier de faire lui-même la transmission à Bernadette d'aller s'expliquer au presbytère si elle y tient. Qu'est-ce que ça veut dire ? À titre d'aumônier, l'abbé Pomian n'est pas directement concerné par la demande de procession, mais la paroisse, et donc monsieur le curé. Autant lors de sa rencontre, au confessionnal, le 13 février dernier, là, l'abbé Pomian s'était proposé d'être médiateur entre l'abbé Peyramal lui-même. Il a demandé à Bernadette si elle acceptait, puisqu'on était quand même dans un cadre du secret de la confession, bien que ce n'était pas une confession, il lui demande s'il peut en parler à l'abbé Peyramal. Bernadette accepte. Là, il a voulu jouer les médiateurs, mais le vent a tourné au presbytère. Et quand on est un bon élève, on est du côté du manche. Donc du coup, là, il laisse Bernadette partir, mais qu'est-ce qu'il va faire ? Il la laisse partir, mais 2 minutes après, il arrive au presbytère, toc toc, je suis là spontanément, hein, parce qu'il veut quand même savoir. Et il attend, enfin, la rencontre entre Peyramal et Bernadette. En tous les cas, voilà ce qu'il en est de la rencontre avec l'abbé Pomian. Si Pauline Cazot était partante pour accompagner Bernadette auprès de l'abbé Pomian, qui est quand même souriant, gentil, bienveillant, à l'idée de devoir accompagner Bernadette au presbytère, elle s'éclipse. Bernadette recourt alors à tante Basile, qui accepte. Aller rencontrer, elle avait payé un mal, c'était quelque chose. Surtout que les tantes avaient mis Pâques avant les rameaux, et qu'à cette époque, on ne rigolait pas là-dessus. Donc les tantes devoir aller se présenter au presbytère, bref. Donc tante Basile accepte, en précisant qu'elle s'arrêteront prendre l'héritière, comme on disait en Bigorre, la tante aînée, chef de famille, tante Bernarde. Aller au presbytère rencontrer monsieur le curé demande tout le soutien possible. Il avait un très grand cœur, mais aussi de grandes colères. Et tout commençait par un mouvement de sourcils, rapporte le témoignage, et lance avec son n'allait pas y louper. La prime annonce à monsieur le curé ne fut pas faite par Bernadette. En accompagnant Bernadette ce matin-là, ses tantes ne se doutent pas que leur visite au sujet de la procession ne fut pas la première. Les dames à qui du bout des lèvres Bernadette confia la demande de procession à la grotte n'en sont pas restées là. Lorsque Bernadette était à l'hospice, et elles étaient au presbytère, trop heureuses d'aller porter l'antienne à leur curé, leur empressement manifeste aussi la fièvre qui gagne les esprits en ville. À bien compter, ces dames viennent d'assister à la 13e apparition. Or, il y a du calcul là-dessous. La dame ayant demandé à Bernadette de venir à la grotte pendant 15 jours, la dernière apparition approche. Et en ville, on en parle comme du grand jour, coïncidant avec le marché du pays de Lourdes. Ce n'est pas simplement le marché de la ville de Lourdes, c'est toutes les vallées qui descendent à Lourdes pour le grand jour, celui du grand marché. Donc là, on se dit, puisque là, en ce moment, à partir de là, les apparitions sont à jour passé, qu'est-ce qui va se passer jeudi? C'est la dernière apparition. Et elles ont eu la réponse dans le peu de choses qu'a dit Bernadette. Donc, je reprends mon texte, pardon. Donc, en ville, on en parle comme du grand jour, coïncidant avec le marché du pays de Lourdes, prévu pour ce jeudi 4 mars. Pour les uns, cette dernière apparition sera celle d'un grand miracle. Ça, c'est les optimistes. Pour d'autres, plus pessimistes, celui d'un terrible châtiment. Si ces dames sont descendues à la grotte dès minuit, Bernadette n'arrive toujours qu'entre 6h30 et 7h du matin. Dès minuit, c'est pour être au plus près de Bernadette. On sait l'emplacement. Et ne rien manquer de la grande affaire. Lorsqu'à la fin de l'apparition, Bernadette leur a confié la demande de procession, elles ont compris. Pour déjouer le grand châtiment, il faut venir ici en procession. Et puisque Bernadette a commencé par ces mots, « Allez dire au prêtre », cette mission leur incombe tout autant. Ainsi annonce-t-elle à monsieur le curé, la Sainte Vierge a demandé une procession pour jeudi prochain. Ah, c'est beaucoup plus précis que la Vierge Immaculée, vous en conviendrez. Et le sang du bon pasteur ne fait qu'un tour. Il chasse celle qu'il a appelée des ouailles surexcitées par une de ces semences dont il a, vous l'aurez compris, le secret. Et c'est dans cette ambiance que Bernadette arrive avec ses tantes. Voilà, la voilà au presbytère. Alors pour suivre le plus fidèlement possible la rencontre qui eut lieu ce matin-là, et dont les tantes ont mis beaucoup de temps avant de s'en remettre, c'est pour ça qu'elles ne voudront, personne ne voudra accompagner Bernadette le soir, quand elle dira « j'ai oublié de demander une chose, de rapporter la chapelle ». Là, c'est pour ça qu'elle va trouver Dominiquette Cazenave. Alors les parents, c'est même pas la peine. Alors les tantes, il ne faut plus leur parler de voir le curé et l'abbé Peyrama, et l'abbé Pomian quand ils les rencontrent. Et la tante Basile dira, mais un prêtre en colère, c'est comme Dieu dans le tonnerre. Vous entendez? Il n'y a pas des éclairs toujours, mais quand même. J'espère que c'est parce qu'il a mis le feu à bouillir l'orée, enfin pas ça. Donc voici la fameuse rencontre, le dialogue qu'a retracé l'abbé Laurentin. C'est toi qui vas à la grotte. Oui, monsieur le curé. pas toi, hein. Être devant monsieur le curé, précise René Laurentin, cela vous ôterait toute envie d'être celle qui va à la grotte. Et tu dis que tu vois la Sainte Vierge. Je n'ai pas dit que c'est la Sainte Vierge. Alors qu'est-ce que c'est que cette dame? Je ne sais pas. Ah, tu ne sais pas, menteuse. Et pourtant le journal l'écrit, et tous ceux que tu fais courir après toi le disent, que c'est la Sainte Vierge. Le peyramale, raisonnable, commente René Laurentin, marque un point encore sur le peyramale croyant. Parce que, c'est la subtilité bigourdade, pour les vicaires et les autorités de la ville, etc., l'abbé peyramale est raisonnable, fin de non-recevoir. Mais dans son cœur, quand même, il dira bien plus tard qu'un souffle des béatitudes est passé sur sa paroisse, parce que qu'est-ce qu'il a entendu au confessionnal? De grands retours à Dieu depuis les apparitions. Donc il est quand même tiraillé, cet homme. Le peyramale raisonnable marque un point encore sur le peyramale croyant. C'est comme ça qu'on appelle ceux qui sont du côté de Bernadette, ce sont les croyants. Alors là, pas question de faire une procession pour une apparition inconnue. Bon, c'est clair. Alors qu'est-ce que tu vois? Quelque chose, répond Bernadette, qui ressemble à une dame. Et là, peyramale ne fait que hurler un mot que Bernadette aura toujours en mémoire. Cao carré! Quelque chose. Monsieur le curé a répété ce mot sonore sur le ton de la dérision. Quelque chose, même pas quelqu'un. Décidément, c'est un comble. Sous l'algarade, Bernadette sent que si elle ne sort pas tout de suite sa phrase, elle va perdre sa commission. Elle lance brusquement. Monsieur le curé, Aquero, celle-là, demande qu'on vienne en procession à la grotte. Si monsieur le curé avait espéré un moment que cette demande était une invention des dévotes noctambules, c'est pas mal aussi. Le voilà fixé et sa colère rejaillit. Menteuse, comment veux-tu que je commande une procession? C'est mon seigneur qui décide des processions. Si ta vision était quelque chose de bon, elle ne te dirait pas de telles bêtises. Et pour quand la veut-elle, cette procession? C'est jeudi que tu as dit? Et là, Bernadette perd pied. A-t-elle dit un jour? Était-ce jeudi? Elle cherche, et tout se brouille. L'argument soulevé par l'abbé peyramale est pertinent. Allez dire au prêtre, mais à quel prêtre? En dehors des processions liturgiques habituelles, procession des rameaux, de la fête de Dieu, de la fête patronale, tout ça est dans le missel et déjà prévu par la sainte liturgie. Mais en dehors de ces processions-là, il faut la permission de l'évêque pour organiser telle procession. Parce que la procession, c'est un acte public qui engage toute l'Église. Donc l'évêque doit donner son aval. Peyramale a vraiment raison de ce point de vue. Aujourd'hui, on a le rapport à la loi et si on devait... Enfin, il y a des choses qu'il faut faire aujourd'hui, sans se poser trop de questions. Mais, à l'époque, on ne plaisante pas avec ça. Donc, la question, du coup, se pose. Hein, à part les liturgies, les processions liturgiques habituelles, celles prévues dans la liturgie, décider une procession appartient à l'autorité de l'évêque. Et la pertinence de l'argument est telle que le procureur impérial du Tour, le soir même, reprend cet argument sans tarder. Enfin, un argument qui discrédite les apparitions. L'apparition aurait dû envoyer Bernadette à la rencontre de Monseigneur l'évêque et non des prêtres. Voilà, on pense enfin avoir trouvé quelque chose, ça ne va pas tenir longtemps. Pour renforcer l'argument, constatons que le même problème se pose au sujet d'un lieu de pèlerinage. La reconnaissance de l'évêque est nécessaire, pas du pape, de l'évêque. Diocésain. De même en est-il quant à l'érection d'une chapelle. L'évêque doit donner son aval. Tout curé ne dit pas j'ai de l'argent, je bâtis une chapelle. Non. L'évêque doit donner son aval. Pour l'abbé peyramale, il y a donc une erreur de destinataire. Une procession extraordinaire n'est pas de son ressort. Et avant d'en venir au dessein providentiel par lequel la question sitôt posée, celle de l'évêque, se trouve résolue, c'est ça la providence, examinons le terme patois avec lequel Bernadette est envoyée à la rencontre des prêtres Anna dise à prêtresse. Bien que la question de l'abbé Peyramale ne se pose pas sur le champ sémantique du patois, examinons de plus près le terme entendu par Bernadette. Elle a dit « at prêtresse », mot qui n'est pas sans poser de question. Existe-t-il dans le patois de Lourdes le 2 mars 1858 ? Ça, c'est une bonne question. S'il existe, et c'est une hypothèse, il est en tout cas peu courant, voire inusité. Dans son analyse détaillée, René Laurentin précise « Il a dans la bouche de Bernadette quelque chose d'insolite. Mais ce caractère est précisément l'indice d'un message qui transcende la voyante. » Bernadette, elle ne connaît que le patois, elle n'invente pas des mots dans le patois. Parce que, qu'est-ce qu'on dit en patois ? On n'a pas des mots comme ça aussi. À monsieur le curé, c'est ça que sœur Basile répondra dans le témoignage. Elle dira « Non, Bernadette, elle n'a pas entendu aller dire au prêtre. » Allez dire à monsieur le curé. Et l'abbé Paumien dira oui, mais tante Basile, elle ne s'est pas remise de sa rencontre avec le curé. Et Bernadette a été chercher tante Basile pour aller chez monsieur le curé. Voyez comment fonctionnent les témoignages. Mais Bernadette a entendu aller dire au prêtre. Heureusement qu'elle a aussi dit ceci à ses dévotes noctambules, comme dirait l'abbé Peyramale, parce qu'elles ont entendu la phrase. Et ce n'est pas la première fois dans le message de Lourdes que la petite bribe de parole que Bernadette a lancée va permettre de se rassurer sur la mémoire de Bernadette. Donc ce mot pose question. Selon la langue théologique, prêtresse, sacerdotesse en latin, désigne ceux qui participent formellement au sacerdoce hiérarchique, l'évêque en premier lieu, et les sacerdotesses, comme dit ordinis, en sa dépendance. Le mot, la portée de ce mot est à souligner. Qu'est-ce qu'il dit, Laurentin ? Le mot prêtre, tel que l'a entendu Bernadette, tel que Bernadette l'a parlé, nous renvoie au commencement de l'Église. Dans les commencements de l'Église, il y a le prêtre, qui est l'évêque, et les prêtres de second rang, que nous sommes, chers confrères, qui sont, si vous voulez, les collaborateurs de l'évêque. Il y a une image liturgique qui disait cela. L'évêque, quand il mettait son étole, il les met des deux pans ouverts, comme vous pouvez le voir aujourd'hui dans la réforme liturgique. Jamais un curé ne mettait l'étole dans ce sens quand il met la chasuble. Il croise l'étole, oui je sais que c'est vrai, il croise l'étole, pourquoi ? Parce que le prêtre de second rang, il a les pouvoirs liés. Qu'est-ce qu'a dit le Seigneur à Pierre ? Ce que tu liras sur la terre sera lié au ciel, ce que tu déliras sur la terre sera délié au ciel. Il le dit à Pierre, il le dit aux apôtres, mais pas aux prêtres. Le pouvoir de confesser, c'est l'évêque qui doit le déléguer au prêtre, par exemple. Donc vous voyez que ce que dit, et l'analyse que fait René Laurentin, c'est que ce mot prêtre reste mystérieux, il n'existait pas forcément dans le patois de Lourdes. Mais la dame l'a utilisé, et il y a un sens derrière, celui que l'évêque est la source même du sacerdoce. Vous savez, le Seigneur, on dit l'institut du sacerdoce au soir du Jeudi Saint, oui, c'est un grand raccourci. Il institue des évêques. Et les évêques ont besoin ensuite de collaborateurs que sont les prêtres. En recherchant la formulation la plus exacte de la parole du 2 mars, ça c'est les grandes études de Laurentin, qu'est-ce que la Vierge a vraiment dit ? René Laurentin ne s'attarde pas plus longtemps sur la question du mot prêtresse. Il l'évacue bien vite, un peu gêné. Mais des années plus tard, concluant son étude monumentale, la portée de ce terme semble avoir fait son chemin. Ainsi conclut-il. Ô prêtre, ad prêtros, ce mot inusité dans le patois de Lourdes a étonné dans la bouche de Bernadette. Et pourtant, il est certain que la Vierge n'a pas dit à monsieur le curé, comme certains, tante Basile, l'ont préconisé par simple vraisemblance. Le choix du mot n'est pas sans portée. Il signifie le sacerdoce dans son ensemble hiérarchique. On sait qu'au temps des pères de l'Église, prêtre, sans aucune précision, désignait l'évêque, et non les prêtres de second rang, comme on disait alors. De ce premier contact, le curé de Lourdes le comprit. La demande de Bernadette dépassait. Le curé de Lourdes et concernait l'évêque. Le 2 mars marque donc une étape ecclésiale du message. La Vierge remet la fondation et la direction du pèlerinage au sacerdoce hiérarchique sans qui la prière improvisée risquait de se corrompre. Elle confie au prêtre l'organisation des processions. Je vous ai dit, quand la Vierge demande quelque chose, c'est que ça existe déjà dans le message de Lourdes, déjà ébauché sur tous les chemins menant aux apparitions, et qui prendront la forme permanente, procession eucharistique de l'après-midi, procession mariale du soir. De ces analyses, retenons que l'évêque, comme les prêtres, sont les destinataires de la demande de fondation et de direction du pèlerinage de Lourdes. Et en Bigourdant, il me faut préciser, l'évêque de Tarbes et son presbytérium sont les premiers destinataires de cette œuvre de fondation concernant l'Église universelle. Voici donc à quel prêtre Bernadette est envoyée. C'est d'ailleurs le cheminement qu'elle vit ce 2 mars. L'aumônier envoya Bernadette à la rencontre du curé de la paroisse. Le curé sentit immédiatement que cette demande dépassait son autorité et concernait l'évêque. Dans les faits, comme dans les termes, c'est bien le sacerdoce hiérarchique qui est concerné. Et voilà le dessein providentiel. Ce mardi 2 mars 1858, Monseigneur Laurence, évêque de Tarbes, quitte le palais épiscopal, jouxtant la cathédrale à 8h30. Il se rend en visite au petit séminaire de Saint-Pé-de-Bigorre. Il faut passer par Lourdes pour aller à Saint-Pé-de-Bigorre. Passant par Lourdes vers 10h15, ben oui, on est à cheval, hein, ça, c'est un joli carrosse épiscopal, mais quand même, ça prend du temps. Il fait descendre de sa voiture l'abbé Fourcade, secrétaire général de l'évêché, afin d'être tenu informé des événements de la grotte. Lorsqu'il se présente à la porte du presbytère, l'abbé Peyramale était content, ça y est, on a un argument, l'évêque, tac tac, il ouvre la porte. Secrétaire général de l'évêché, bonjour, l'évêque m'envoie, il veut savoir ce qui se passe. Go. Et puisque nous précisions plus haut que la reconnaissance d'un lieu de pèlerinage dépend de l'autorité de l'évêque, comme la construction d'une... Excusez-moi. Lorsqu'il se présente à la porte du presbytère, la surprise est grande pour l'abbé Peyramale. Là où la Sainte Vierge envoie Bernadette à la rencontre des prêtres, eh bien l'évêque envoie son secrétaire auprès de ces mêmes prêtres. L'abbé Fourcade s'entretient avec le curé Peyramale en présence de l'abbé Paumian et de l'abbé Peine. Bernadette est partie. Mais quel est le sujet de conversation au presbytère? La visite de Bernadette et le conflit entre l'abbé Paumian, toujours du côté du curé, et l'abbé Peine, qui est le seul à dire « Mais il faudrait qu'on puisse aller à la grotte, il faut que vous en parliez à l'évêque, mais attention, monsieur le curé, quand vous en parlez à l'évêque, si en tant que curé vous laissez entendre que vous n'êtes pas d'accord, vous allez influencer l'évêque, vous devez donc en parler de façon très neutre. » Et l'abbé Peyramale qui commence à répondre que c'est lui le curé et le vicaire, vous voyez l'ambiance, du moins les confrères là devinent. Et alors là, quand on a vu arriver le secrétaire de l'évêché, le secrétaire de l'évêché, ce n'est pas un secrétaire parmi tant d'autres, c'est vraiment le vicaire de l'évêque. Hein. Donc là, quand on ouvre la porte et qu'on voit le secrétaire, on se dit « qu'est-ce qu'on a fait pour que Monseigneur nous envoie son secrétaire particulier qui va reprendre le chemin pour aller à Saint-Pé et dire à l'évêque ce qu'il s'est passé ?» Le soir même, l'évêque, Monseigneur Laurent, sera au courant et de la demande de la procession et puis après de la chapelle. Voyez comment la Vierge et la Providence divine orchestrent tout cela. En tous les cas, la visite du secrétaire de l'évêché a pacifié les débats du presbytère. C'est heureux temps que les visites épiscopales pacifient. Et puisque nous précisions plus haut que la reconnaissance d'un lieu de pèlerinage dépend de l'autorité de l'évêque, comme la construction de la chapelle, notons que Monseigneur Bertrand Sévère Laurence ne se dérobera pas à sa mission de discernement. C'est au secrétaire de l'évêché, celui-là même qui a frappé à la porte, qui est devenu entre-temps le chanoine de Fourcade, qu'il confie la commission épiscopale chargée d'enquêter sur les événements de Lourdes. Elle s'ouvre en août 1858 et durera 3 ans et demi. À la suite de son rapport, Monseigneur Laurence publie un mandement en date du 18 février 1852, voilà le cœur du mandement épiscopal, nous jugeons que l'Immaculée Marie, expression très intéressante, ceux qui se rappellent, ma conférence sur Je suis l'Immaculée Conception, je vous ai dit l'un des problèmes. Là, on a parlé du mot prêtresse en patois. Mais le problème pour le mot Immaculada, c'est pareil. La Vierge a sans doute dit qu'elle soyera l'Immaculée Conception, parce que Immaculada, on l'a rajouté en patois, si vous voulez, après les apparitions. C'était souvent comme ça que ça marchait pour le patois. Donc là, c'est le mot prêtresse qui nous intéressait. En tous les cas, Monseigneur Laurence, lui, parle bien de l'Immaculée Marie, parce que pour nous, l'Immaculée est devenu vraiment un terme qui désigne la Sainte Vierge. Absolument pas avant 1858. On a au contraire trouvé que c'était très maladroit. Alors je sais que nous, on est à l'époque où on l'appelle Marie, on la tutoie. C'est bien bas. Mais alors à l'époque, rien que dire l'Immaculée, c'était déjà une offense. Eh oui, la foi baisse. Nous jugeons que l'Immaculée Marie, Mère de Dieu, a réellement apparu à Bernadette Soubirousse le 11 février 1858 et les jours suivants, au nombre de 18 fois, dans la grotte de Massabielle, près de la ville de Lourdes, que cette apparition revêt tous les caractères de la vérité et que les fidèles sont fondés à la croire certaine, pas obligés, fondés. Nous soumettons humblement notre jugement au jugement du souverain pontife qui est chargé de gouverner l'Église universelle. La conséquence de ce mandement est double. Le pèlerinage de Lourdes est autorisé, et entre nous soit dit, juste avant le mandement, parce que tout le monde, on se dit, si c'est authentifié, le prix du terrain autour de la grotte, mais si ça ne l'est pas, on va se garder tout ça sur les bras. L'évêque, qui gouverne parfaitement son diocèse, achète le domaine de la grotte, et ensuite publie la reconnaissance. Eh oui, on savait gouverner dans tous les sens du terme. Donc la conséquence du mandement est double, le pèlerinage est autorisé, la construction de la chapelle annoncée. L'appel de la Vierge Immaculée, lancé le 2 mars 1858, a été entendu. Conclusion. De ce parcours, retenons la portée des deux termes, prêtresse et procession. Le premier désigne, vous l'avez compris, le sacerdoce dans son ensemble hiérarchique. L'Immaculée convoque l'ensemble du peuple chrétien par le ministère des prêtres, et plus précisément encore par celui qui en est la source, l'évêque, successeur des apôtres, possédant la plénitude du sacerdoce. C'est de cela dont il est question. L'évêque a la plénitude du sacerdoce, et nous, nous avons une participation au sacerdoce de l'évêque. C'est à ce titre que l'évêque aussi de Tarbes et Lourdes porte le titre de gardien de la grotte. Et que le recteur, précise les nouveaux statuts, doit être recherché en priorité parmi les prêtres du diocèse. Parce qu'il y a vraiment un enracinement en Bigorre. Et vous voyez que non seulement l'abbé Peyramale, bon, et du diocèse forcément, comme l'abbé Beaumian, l'abbé Serre, mais aussi, paradoxalement, l'évêque. Dans l'histoire de Lourdes, nos plus grands évêques ont toujours été ou du diocèse. Monseigneur Laurence était originaire de chez nous, il n'aurait jamais dû être évêque de ce diocèse, mais il l'a été. Tout comme Monseigneur Billère, qui était aussi originaire du diocèse, qui fera le bureau médical, la procession au flambeau, voilà. Comme Monseigneur Théas, qui est aux portes du diocèse, et comme aujourd'hui notre évêque, qui est aux portes de l'autre côté du diocèse, qui n'est pas originaire de chez nous, mais qui en est très proche. Les grands évêques de Tarbes et Lourdes étaient toujours du diocèse ou de très proches, dont nous sommes très confiants. Le second terme, processio, voyez, nous invite à élargir l'appel lancé par Notre-Dame de Lourdes. Plus qu'une procession liturgique, la Sainte Vierge souhaite que nous conduisions ici les fidèles dans un but précis, vivre le pèlerinage de Lourdes. Processio, conjugué avec l'inusité à prêtresse, manifeste l'ecclésiologie du pèlerinage désiré par la Vierge Immaculée. L'excellence du pèlerinage de Lourdes est atteinte lorsque l'évêque, accompagné de ses prêtres, conduit les fidèles de son diocèse à Lourdes. On a construit la gare. Dans l'histoire de Lourdes, la chapelle n'étant pas encore bâtie ou pas très grande, on sort du train, on se met en procession. Alors procession, c'est pas simplement deux par deux, on se donne la main, c'est l'école. Hein.
procession, ça dépend des corporations, il y a tout un ordre, le clergé, la bannière, chaque groupe avec sa bannière. On se met en ordre de procession dès qu'on sort de la gare. On part en procession à l'église paroissiale. Bernadette n'est plus là, mais il reste Peyramale. Donc c'est le curé Peyramale qui accueille dans son église, voilà pourquoi il a fait construire une église plus grande. Puis on part de l'église en procession à la grotte de Massabielle. On va passer par la chapelle, on va descendre les M qui permettent d'arriver à la chapelle, et voilà qu'on correspond à la demande de la dame, on est venu en procession. Vous voyez comment on comprend les choses. Donc, voilà un peu, en tous les cas, l'excellence du pèlerinage à travers les mots. C'est vraiment le pèlerinage diocésain. Quand l'évêque, les prêtres, et les prêtres avec les diocésains pour l'évêque, avec chacun des fidèles des prêtres, viennent à Lourdes. Comme nous venons de l'approfondir, eh bien, ces deux réalités, sacerdoce et pèlerinage, eh bien, habitent vraiment le message de Lourdes. C'est tout simplement... ce que vous font vivre vos abbés depuis des années et des années. S'ils vous font revenir à Lourdes, c'est pas qu'ils n'ont pas d'autre idée, mais c'est qu'ils savent bien qu'il faut venir à Lourdes, qu'il faut y rester, parce que plus qu'une terre de miracles, Lourdes est avant tout dans le cœur de Notre-Dame, une terre de conversion. Les saints et les anges en cœur glorieux chante vos louanges, ô Reine des cieux. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave.
Notre-Dame de Lourdes,
priez pour nous.
Sainte Bernadette,
priez pour nous.
Sainte Anne et Saint Joachim,
priez pour nous.
Ô Marie conçue sans péché,
priez pour nous.
Bienheureuse épouse.